ce sujet EPRA, nous vous proposons de suivre un atelier débat organisé conjointement par l'Association des Tunisiens en France, la Fédération des associations laïques de Roubaix, l'Association Femmes Solidaires et l'Union des familles laïques de Lille sur le thème laïcité et tolérance avec M. Pierre Baraka, président de l'UFAL de Lille.
Alors, laïcité, on m'a flanqué comme sujet laïcité et tolérance. Juste préféré tolérance et laïcité. Ou tolérance ou laïcité. Vous verrez pourquoi. Mais oui, parce que, effectivement, pour moi, l'intitulé est ambigu. Par exemple, j'ai eu un peu le temps. Sur un site, j'ai vu, par exemple, nous défendons un idéal où laïcité rime avec tolérance. Sur un autre site politique, j'ai lu... La laïcité, c'est la tolérance, pas l'exclusion. Ça, c'était au sujet de la loi du 15 mars 2004 qui interdisait les signes religieux dans une partie du service. Moi, je ne dis pas l'école, je dis du service national public d'enseignement. Parce que je revendique que ça aille jusqu'à l'université où je suis. La question qui se pose, c'est peut-on dire la laïcité égale la tolérance? Moi, je me pose la question, c'est quoi la tolérance? La tolérance, aujourd'hui, c'est une notion floue, très floue. En effet, si on prône la tolérance, alors on doit être tolérant avec tout. Avec ceux qui disent, par exemple, les femmes sont inférieures aux hommes. Avec ceux qui disent que l'Église catholique doit imposer ses valeurs au reste de la société. Alors je vous laisse décliner toutes les églises possibles qui existent et qui sont encore à inventer, et qui s'inventent. Ça veut dire qu'on doit être tolérant avec ceux qui veulent imposer l'athéisme à tout le monde, comme ce fut le cas en URSS. Ça veut dire qu'on doit être tolérant avec ceux qui défendent les idées nazies. C'est ça que ça veut dire, être tolérant, en fin de compte. Être tolérant, j'irais même jusqu'à la provocation, c'est dire bah, pourquoi on se mettra en colère contre Le Pen et contre Hitler. On voit bien que tolérant, qu'être tolérant, oblige, si on est cohérent et conséquent intellectuellement, à tolérer l'intolérable. Sinon, il faut tolérer à géométrie variable. C'est-à-dire, on tolère ceci quand on est cela, mais pas ceci quand on est autre chose. On tolère moyennement ceci, ou pas cela. Donc vous voyez que c'est un concept, moi je n'appelle pas ça un concept, j'appelle ça une notion molle. C'est une position qui est intenable à cause de sa géométrie variable. Qu'est-ce qu'une tolérance qui ne tolère pas certaines choses? Par contre, la tolérance, historiquement, a été une position progressiste. À partir des années 1500, au XVIe siècle, et notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, dans des pays comme la Hollande, les Pays-Bas du Nord, nous étions ici dans les Pays-Bas du Sud, eh bien, la tolérance, sous différentes formes, a permis de développer des espaces de liberté et de coexistence pour les opprimés des religions dominantes. Cette notion s'est développée essentiellement, cette notion de tolérance, s'est construite à partir du moment de l'apparition de la réforme, c'est-à-dire du début du protestantisme, du luthéranisme et du calvinisme. Alors, on a érigé historiquement à l'époque, et puis encore aujourd'hui on le fait parfois, la Hollande des XVIIe, XVIIIe siècle comme le modèle du pays, des pays de la tolérance, quoi, le modèle de la tolérance. Mais quand on y regarde de plus près, cette tolérance dans les Pays-Bas du XVIIe, XVIIIe siècle sont le résultat d'un processus long et douloureux. Et c'est surtout le résultat d'une position politique de la bourgeoisie urbaine hollandaise. J'aime bien rappeler qu'en Hollande, c'est une monarchie. C'est Guillaume II d'Orange qui est le roi de Hollande. Mais ceci dit, il y a 35 familles nobles en Hollande. Imaginez, c'est pas grand monde. Donc ce sont pas ces 35 familles nobles qui dirigent, mais ce sont les grands banquiers, les grands négociants, donc qui dirigent les villes, qui font le commerce, qui font des affaires, etc., qui développent des productions, etc. Et donc ces gens-là, une fois liquidé l'affaire avec les Espagnols, c'est-à-dire ayant réussi à empêcher le Philippe II d'Espagne et puis ses successeurs, l'Inquisition, c'est-à-dire le bras armé de l'Église catholique et l'armée espagnole, d'entrer dans cette zone-là des Pays-Bas, tout court, parce que c'était une colonie espagnole, hein, eh bien, dès qu'ils ont eu la certitude, ça a duré quand même 50 ans cette affaire-là, ça a duré en gros de 1570 à 1648, quoi. Donc, plus que 50 ans même. Donc, quand ils ont eu la certitude, ces bourgeois, que, ma foi, l'Inquisition et le roi d'Espagne reviendraient plus dans cette partie-là, alors ils ont commencé à dire « ça suffit maintenant à un certain nombre de gens ». Jusque-là, on a laissé faire les pasteurs protestants. Vous voyez, moi, chacun a pris sa petite religion. Moi, j'aime cibler ici les protestants. Donc, les calvinistes, qui sont en fait les gens qui suivent Calvin, forcément, à Genève, voulaient reproduire l'horrible système de... Je peux dire l'horrible, parce que personne n'accepterait de vivre dans ce truc-là. L'horrible système que Calvin avait mis en place, c'est un Français, Calvin, en plus, avait mis en place à Genève, système qui l'amenait, comme ça, tous les ans, à descendre dans 7% des familles pour voir si les gens respectaient les normes que son clergé imposait à la population. Alors on allait visiter, on allait regarder, et puis on disait, bah voilà, vous êtes punis, sanction, mais très grave des fois, accroché sur la place publique. Hein. Et donc les pasteurs protestants, tant qu'il y a eu le conflit avec l'Espagne, on a laissé faire. Mais à partir du moment où les conflits étaient plus ou moins résolus, alors là, la bourgeoisie a dit, ça suffit, quoi. Ça suffit d'essayer de nous imposer vos règles et vos normes et vos valeurs ascétiques, etc., aux pays hollandais. Et c'est dans ce contexte-là que la bourgeoisie a construit un régime politique fondé sur les idées philosophiques de tolérance qui était en train de se construire. Un régime politique qui dit, voilà, qui dit aux protestants, d'accord, vous êtes la religion majoritaire en Hollande, mais vous avez des maisons, vous payez des maisons. On vous finance, etc., etc. Mais si vous ne tolérez pas l'existence des juifs, des catholiques et des luthériens, eh bien, ça en est fini avec tout ça. Donc, c'est moyennant, si vous voulez, ce dispositif politique, parce qu'on allait à un affrontement interreligieux, protestant, calviniste contre les autres, que la bourgeoisie a dit hola, hola, ça suffit. Hein. Et donc, c'est comme ça que le régime politique de la tolérance ça a été construit par la bourgeoisie urbaine en Hollande. Donc, vous voyez que l'histoire de la... je rappelle cet épisode, parce que quand on parle de la Hollande, on en fait toujours un discours théorique, philosophique, mais c'est tout bêtement la volonté de ces groupes sociaux-là de dire « on continue à faire nos affaires, on continue à coexister, et c'est dans cet équilibre-là que... on va exister pour éviter les affrontements intercommunautaires religieux. À cette époque-là, le régime de tolérance est un régime de développement des libertés parce qu'il permet d'apaiser les conflits entre les communautés religieuses qui existent sur le terrain, hein, et qui risquaient de réapparaître à tout moment. Parce que dans le fond... Cette politique de tolérance, on va voir qu'elle est un progrès à cette époque-là, mais elle est toujours menacée par quelque chose qui paraît évident quand on va le dire. C'est que la tolérance, le régime de tolérance n'existe que si la majorité accepte de l'appliquer. Le jour où elle décide de ne plus l'appliquer, les minorités, ils l'ont plus, ils sont remis en cause. Donc c'est... Le régime politique de tolérance est un régime précaire, fragile. Mais à l'époque, c'est un progrès. C'est pourquoi, si vous voulez, quand on regarde l'histoire de France, c'est pas parce que c'est l'histoire de France, mais c'est parce que ça s'est fait ici, nous sommes allés plus loin que le régime politique de la tolérance. Nous avons dépassé ce stade-là. Et nous avons inventé un régime politique supérieur. C'est le régime politique de la laïcité. C'est une étape supérieure à la laïcité. Donc, là, pour être clair, le régime de tolérance est antérieur au régime laïque, de la laïcité. Vous comprenez bien où je veux en venir. Retourner au régime de la tolérance, c'est retourner en arrière. Hein. C'est ce que je démontrerai après. J'annonce déjà la couleur. Alors la laïcité, c'est quoi, pour aller très vite? Le régime de laïcité, donc, je dis, résulte d'un dépassement du régime de tolérance. En France, ça a été construit très difficilement, je vais pas revenir là-dessus. Ça a été une longue histoire. Ça commence, c'est avec les rois de France. J'aime bien rappeler que c'est pas une affaire de la République quand on nous serine sans arrêt. Ça commence à se construire avec les rois de France, j'aime bien le rappeler. Quand ils se dissocient du pouvoir royal, du pouvoir, excusez-moi, Vatican, du pouvoir du pape, il y a déjà un découplage entre le pouvoir politique royal et le pouvoir ecclésiastique, ou pouvoir religieux. Et donc, le roi veut être maître chez lui, c'est pas le pape qui doit diriger. Alors, le summum est quand même atteint déjà, on va déjà beaucoup plus loin avec l'édit de Nantes, quand on a un roi protestant qui est obligé de dire « Paris vaut bien une messe ». Et donc, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que l'on a une religion majoritaire, reconnue majoritaire catholique, mais qui doit tolérer les protestants. Et il y a déjà donc des principes qui vont se mettre en place, ça va au-delà de la simple tolérance, Et une concurrence va se mettre en place entre protestantisme, catholicisme, etc. Alors, bien sûr, il va y avoir des reculs. C'est l'abolition de l'abrogation des l'édit de Nantes, etc. Mais vous avez tout un processus comme ça qui fait que le pouvoir politique commence à se découpler du pouvoir religieux. Et ça socialise les gens, ça. C'est une vieille histoire. C'est pas simplement que dans les livres d'histoire que le roi, il est au-dessus des curés. Il est au-dessus du pape. Il fait ce qu'il veut en France. On est dans un pays qu'on appelle un pays gallican. Les rois de France sont gallicans. Donc ça veut dire que le pouvoir en France est supérieur au pouvoir religieux qui est extérieur. Ce n'était pas le cas de l'Espagne, qui est le bras armé de l'Église et qui a l'Inquisition qui est créée pour ça, pour fonctionner en interaction. Alors, cette laïcité, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, à travers les débats du XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, également autour de la Révolution, si vous voulez, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, quoi. Et simplement pour dire que la laïcité, c'est bel et bien une construction politique. C'est une construction politique qui vise à dépasser les différences communautaires, qu'elles soient religieuses, ou lié à des positionnements, on dirait régionalistes aujourd'hui, provincialistes à l'époque, enfin, ethniques, tout ce que vous voulez, quoi, qui implique le dépassement d'une juxtaposition de communautés. Donc c'est un régime politique qui fait passer au-dessus d'un patchwork, moi j'aime bien cette expression de patchwork, de communautés religieuses, ethniques, etc. Sans mépriser pour autant celle-ci. La laïcité va affirmer l'émancipation et l'autonomie de l'individu, qui jusque-là est enfermé dans les communautés. Il n'a pas le droit de déroger aux communautés, aux principes, aux normes, aux valeurs des communautés. Et c'est la construction du droit à l'individualité dégagé de la pression de ces communautés. C'est l'institutionnalisation de la liberté de conscience, on l'a déjà dit, dans le cadre de règles communes, cette fois-ci, à l'ensemble des individus devenus des citoyens, du coup. Ils sont citoyens, c'est la notion de citoyen qui apparaît au lieu de sujet du roi, qui était déjà autre chose. Être sujet du roi, c'était quand même pas être sujet du pape. C'était déjà... Moi, je fais des nuances subtiles entre tout ça. Donc... Bien sûr, c'est nettement mieux être citoyen que sujet du roi. Dans le cadre d'un État-nation sur un territoire et de la République. C'est ce qui va permettre de faire société entre tous ces gens qui, jusque-là, n'étaient qu'un patchwork de communautés aux intérêts antagonistes et pouvant déboucher sur des guerres interethniques, interreligieuses. Alors, c'est quoi faire société dans la République laïque ? Ben d'abord, c'est de dire que la laïcité n'est pas une opinion en plus à côté des religions. Il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, les laïcs et de l'autre, les croyants, quels qu'ils soient, et les agnostiques. La laïcité, c'est pas non plus l'athéisme. C'est certainement pas ça. La laïcité, c'est pas l'anti-religion. c'est pas la lutte contre la religion. La laïcité, c'est un régime politique. Et ce régime, cette construction politique, ce régime politique, postule d'abord le droit égal pour tous les individus. Alors évidemment, notre Révolution française, elle parle des droits de l'homme et des citoyens. Nous aurions bien aimé qu'elle parle des femmes aussi. Mais l'homme étant entendu, on espère, au sens général d'anthropos, hein, de l'anthrope. Mais c'est pas évident du tout, c'est pas sûr du tout. C'est sûr que c'est pas sûr. Donc il a fallu des batailles complémentaires pour que cette dimension-là du régime politique de la laïcité se construise encore davantage. Ce qui permet aussi, au passage, l'exemple permet au passage de montrer que le régime politique de la laïcité n'est pas fini, il est toujours à construire. Hein, au fur et à mesure que les choses nouvelles apparaissent. S'il y a un droit égal pour tous, s'il y a des lois communes pour tous les individus, ces individus, donc, ne dépendront plus des lois, des règles, des normes, des valeurs et forcément des sanctions qui existent dans leur communauté. C'est ça qui permet de vivre ensemble et de faire société entre tous ces individus de toutes ces communautés. Donc ça veut dire qu'elle est, bon, je rappelle toujours, moi j'ai toujours l'habitude de rappeler, la création de l'état civil, c'est quelque chose de fondamental dans tout ce processus. Ça veut dire que jusque-là, jusqu'à la Révolution française, n'ont aucune existence tous ceux qui ne sont pas catholiques. D'où l'existence de cimetières à part, de fosses communes pour tous ceux qui ne sont pas catholiques, des carrés à part, des cimetières à part pour les juifs, etc. Donc l'état civil, la non-existence dans les registres, parce que seuls sont enregistrés dans les registres paroissiaux ceux qui sont catholiques. Donc historiquement, nous n'avons aucune trace de tous ces gens qui n'étaient pas là-dedans. L'état civil, par la laïcité et l'égalité donc, qui est incluse dedans, met tous les citoyens à égalité, les pouvoirs publics reconnaissent tous les gens qui existent. Alors, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec un Molière à la fosse publique, quoi. Hein, la fosse commune, plutôt. Mais d'autres gens, aussi. Il n'y a pas que Molière. Je prends des personnages comme ça. Mozart, à d'autres endroits. Donc, cette laïcité qui contient en elle-même les droits, l'égalité aux droits, c'est elle qui permet de faire société, de vivre ensemble, de créer du lien social. Donc, on comprend bien que demander le contraire, c'est-à-dire que demander le retour à la tolérance, signifie redemander que tout devienne relatif. Ça veut dire que tout se vaut et que donc chacun pourrait avoir ses propres valeurs, ses propres normes, ses propres sanctions. À la limite, je pourrais dire, moi, écoutez, les valeurs, les normes, tout ce que vous racontez, c'est pas les miennes. Moi, mon voisin, il me plaît pas. Poum, je le flingue. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est mes valeurs à moi. C'est ça le droit à la tolérance. Moi, je suis égotique, égocentrique, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas besoin d'autres gens. Je fais ma communauté à moi toute seule, etc. Qu'est-ce que vous allez dire à ça? Rien du tout. Puisque si vous prenez le régime de la tolérance, vous êtes bien obligé d'accepter ça. Donc, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien dans une société comme ça. Hein, il faut bien voir. Alors, c'est pareil si on dit chaque communauté a ses lois, etc. Chacun, on n'a plus rien à dire. Chacun va faire ce qu'il entend dans son petit coin et plus personne ne peut rien dire. Donc c'est la remise en cause, si vous voulez. Si vous remettez en cause le principe de laïcité et que vous acceptez le principe de tolérance, vous êtes obligé d'admettre la fin, la disparition de la justice commune pour tout le monde et les droits. Parce que quand vous dites les droits communs, vous dites la justice. Donc à quoi, dans ce cas-là, aller s'amuser à aller juger un type qui tue un étudiant qui passe dans la rue? À quoi ça sert d'aller juger un type qui fait un viol, etc. C'est, il faut le tolérer. C'est ça le principe de base de la tolérance. Donc, à la différence, si vous voulez, du régime de tolérance, le régime de laïcité de la République laïque méconnaît, c'est ça qui est fondamental, il méconnaît les majorités et les minorités. Il méconnaît les communautés, les différentes communautés, il méconnaît les différences entre les hommes et les femmes, il méconnaît les différences, évidemment, juridiques. Donc, La laïcité n'est donc pas la tolérance. Chacun l'a compris, c'était la thèse que je voulais défendre. La laïcité n'est donc pas la tolérance, mais plus que la tolérance. Car tous les individus sont égaux juridiquement et devant des lois communes. Et les lois communes ne sont pas imposées par une des communautés, qu'elles soient ethniques ou religieuses ou philosophiques, comme c'était en URSS, hein, le marxisme, la vulgate marxiste, etc. Donc je pense que j'insiste lourdement, la laïcité méconnaît les communautés, le droit à la différence et la différence des droits. C'est bien pour cela que les adversaires de la laïcité, il y en a toutes les sortes, je vais les recenser rapidement, les partisans du repli communautaire, de la différence des droits, et des droits à la différence, veulent la tolérance. Alors ils l'appellent parfois autrement, ils l'appellent laïcité ouverte, laïcité positive, ça revient exactement à ça, c'est la tolérance. C'est le retour au régime de tolérance. C'est pour ça que je crois qu'il y a lieu à méditer sur ces concepts qu'on nous balance sans arrêt comme ça. C'est on pourra discuter, quoi. Tout est toujours plus beau quand c'est ouvert apparemment que c'est fermé. Moi, j'ai l'habitude de dire, écoutez, les gens qui ont été fermés au nazisme, je les salue. C'est pas ceux qui étaient ouverts au nazisme qu'il faut saluer. Donc, ne nous laissons pas avoir par les pièges sémantiques. Ouvert, positif, etc. Hein. Et ni des mots comme moderne. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, vous savez, la bombe atomique, c'était moderne en 1945. Hitler aussi, il était moderne. D'accord ? Ça ne veut pas dire que quand c'est moderne, c'est progressiste. Moderne, ça veut dire tout simplement langage courant, nouveau. Bah, dans le nouveau, il y a des choses bien et pas bien. Il y a des choses que je ne peux pas soutenir, quoi. Donc, ces idées-là, si vous voulez, de la tolérance, elles sont l'instrument théorique, idéologique, des partisans d'un modèle de société qui n'est pas celui de la République laïque, féministe, tout ce que vous voulez en France, et d'un modèle de société qui est une société communautariste. Alors, ce n'est pas étonnant, Mohamed l'a rappelé tout à l'heure, ça nous vient des États-Unis et du Canada. Les thèses communautaristes nous viennent du Canada, alors aussi bien des universités américaines et canadiennes, notamment de mes confrères sociologues, puisque je suis sociologue, alors donc des confrères sociologues qui ont développé ça, et qui ont développé ça dans les pratiques de sociologie, et donc ces théories-là, si vous voulez, qui nourrissent aussi les thèses postcoloniales, hein, on pourrait en parler aussi, qui remettent en cause le régime de la République laïque, eh bien... nous proviennent de différents milieux et pour différents usages. Et nous proviennent de ceux auxquels on pense tout de suite, quoi, les nostalgiques du retour à avant la loi de 1905, c'est-à-dire l'Église catholique, c'est évident. J'ai pas dit les catholiques, hein. J'ai dit l'Église catholique. Et même, je serais même encore plus nuancé, à l'intérieur de l'Église catholique, tous ne sont pas comme ça. Ça veut dire le noyau dur qui, dans l'Église catholique... préconise le retour à l'ancien régime d'avant la Révolution française. Parce qu'il y a toujours ça en l'air. Toujours dans cette idée. C'est les durs de durs, ceux qu'on voit des fois dans les manifestations anti-IVG, devant le planning familial à Lille ou ailleurs, etc. Bon, il y a eux, donc. Et puis on les voit, ils sont au gouvernement. Il y a quelques ministres et secrétaires d'État qui sont bien représentatifs de ce courant-là. Voire même, il se dit, ministre de l'Éducation nationale, mais ça reste à vérifier. S'il ne fait pas partie de cette mouvance-là. Ce qui expliquerait d'ailleurs au passage le type de mesures qu'il met en place. Ça, c'est en cours de vérification. Donc, il y a cela. C'est-à-dire, c'est des... Alors, auxquels on peut rajouter tous les autres, les nouvelles religions. Les protestants les premiers, qui ont été les premiers bénéficiaires avec les juifs de la laïcité à la Révolution française. Jusqu'à une date récente, les protestants étaient les plus grands défenseurs de la laïcité. Qu'est-ce qui arrive ? Ah ben, le jour où ils se sont rendus compte qu'en Europe, ils n'étaient pas minoritaires. Vous ajoutez les Anglais, les Hollandais, les Scandinaves, les luthériens allemands. Et ça commence à faire un paquet là-dedans. Et bien, à partir de ce moment-là, on constate la corrélation entre l'abandon par les protestants français de la défense de la laïcité. Alors, il se trouve, paradoxalement, bien, le seul groupe religieux qui persiste à demander la laïcité, c'est les juifs, en gros. avec des nuances à l'intérieur, parce qu'ils sont minoritaires, hyper minoritaires, quoi. Et que si, effectivement, on ne peut poser que le problème comme ça, hein, ils vont tout perdre. Si, puisqu'ils représentent, je sais pas, 800 000 personnes à peu près en France, hein, ils ne dépassent pas le million de personnes. Hein. Donc, ces gens-là, c'est les défenseurs. Alors, bien sûr, il y a des intégristes juifs, hein, ça, ils existent, mais ils sont minoritaires. C'est paradoxalement encore actuellement la seule religion, mais pour ces raisons-là. Ce qui prouve bien que le régime de tolérance réactiverait toutes ces appétits de ces différentes religions. Et probablement les combats pour la suprématie, parce que pour le moment, c'est l'entente entre eux. Mais quand il va falloir dire « c'est nous qui avons raison », c'est lequel qui va avoir raison ? Ça va être la bagarre, ça va être le Liban, ça va être la Yougoslavie, enfin des machins comme ça, quoi. L'Inde en ce moment, ces jours-ci, là, aujourd'hui, ça va être des bagarres comme ça. Hein, parce qu'à partir, quand l'alliance est terminée, qu'on a liquidé ceux qui défendaient la laïcité, c'est évident. Qui est-ce qui va diriger, qui va imposer son système aux autres ? Et puis, je termine encore, là, je termine tout à fait. Il y a ceux aussi, après les nostalgiques, ceux qui remettent en cause l'égalité des individus, notamment des hommes, des femmes, etc. J'y reviens pas. Et il y a ceux aussi qui ont été évoqués dedans, qui jouent les oppositions ethniques et religieuses contre les oppositions de classe, hein, de classe sociale, qui caractérisaient aussi la République française. Hein, il y avait des oppositions de classe qui avaient débouché sur... des conceptions de services publics, d'école publique, de droits des salariés, des travailleurs, etc., comme disent d'aucuns, etc. Tous ces gens-là ont tout intérêt à attiser les oppositions ethniques et interreligieuses pendant qu'on se bagarre comme ça, et voire régionalistes. Pendant qu'on se bagarre comme ça, ben on ne pense pas aux droits du travail, on ne pense pas à ceci, on ne pense pas aux services publics, etc. Alors, en conclusion, accepter le retour au régime de tolérance, c'est tout simplement accepter le recul des libertés individuelles, lesquelles sont fondées sur l'égalité des droits, et c'est accepter le développement de la différence des droits et des droits à la différence. Défendre la République laïque, c'est poursuivre la construction des libertés fondées sur l'égalité des droits, qui est la base du vivre ensemble et qui permet justement le maintien des possibilités de services publics, d'écoles communes, d'accession à l'instruction, etc. etc. quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler. Donc accepter le droit à la tolérance, c'est retourner dans l'ancien régime avant la Révolution française.